Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag au carré, une émission proposée par la lettre Mètre Carré sur Radio Imof. Durant cette émission, je suis évidemment accompagnée par la rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Il s'agit d'Audrey Jourdain, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Très bien et vous ?
Très bien. Un beau thème aujourd'hui, hein, le thème de l'émission est le co-living, plus 1100% d'investissement dans les murs en seulement 2 ans. Alors, on en parle de plus en plus, hein. C'est un véritable phénomène de mode avec une demande toujours plus forte, un taux d'occupation très élevé. On va le voir justement plus en détail durant cette émission. Alors, justement, c'est un mode de vie qui séduit de plus en plus de locataires avec des profils assez variés. Pour en parler, justement, j'accueille 2 invités en plateau. Joseph-Marie Absil, bonjour.
Bonjour.
Directeur associé d'Audacia.
Exactement.
Et Julie Membrib, bonjour.
Bonjour.
Directrice du développement immobilier géré Île-de-France, DICA de promotion.
Exactement.
Alors, avant tout, pour bien commencer l'émission, nous allons déjà expliquer ce qu'est le co-living, pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, et faire le point justement sur son marché. C'est parti, c'est l'édito d'Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Débutons par la définition de la résidence de co-living, encore floue pour beaucoup du fait de la jeunesse du concept. Une résidence de co-living est un immeuble avec des logements privés et des espaces communs à la disposition des habitants. Ce concept d'habitat partagé est apparu en France il y a seulement 3 ans. En moyenne, une résidence de co-living dispose d'une surface de 1150 m², offre 40 logements privés et propose un loyer de 750 € par mois. Poursuivons sur l'expansion du co-living que l'on peut qualifier de spectaculaire. D'abord, le parc de résidences de co-living s'est considérablement étendu en 3 ans. En France, près de 180 résidences de co-living se sont ouvertes entre 2019 et 2022, ce qui représente 7000 lits. Et excellente nouvelle pour notre industrie, les prévisions annoncent 100 nouvelles résidences en 2022, c'est plus de 3000 logements. Ensuite, les investissements dans les murs de résidences de co-living s'intensifient fortement. En France, 450 millions d'euros ont été investis dans la classe d'actifs en 2021. C'est quand même plus de 1100% par rapport à 2019. Alors terminons avec quelques prévisions. À partir de 2023, les projets seront moins nombreux, mais plus volumineux. Le marché devrait arriver à maturité en 2026 et les taux de rendement prime devraient encore se compresser. Ils sont aujourd'hui inférieurs à 4% à Paris et en première couronne et sont supérieurs à 4,2% en région. Mais approfondissons le sujet avec nos experts du thème.
Merci beaucoup Audrey. On passe maintenant à nos questions pour nos invités.
Les invités du carré.
Alors, on va commencer avec vous, Julie Membrib, donc directrice du développement immobilier géré Île-de-France, DICA de promotion. Alors, oui. Pouvez-vous déjà nous présenter brièvement ICA de promotion ?
Oui, alors ICA de promotion est un grand promoteur national, filiale de la Caisse des dépôts. Et c'est dans ce cadre, en fait, qu'on promeut notamment le logement pour tous. Et on y reviendra peut-être après, mais c'est pourquoi le co-living est un segment qui nous intéresse fortement. Voilà.
Alors justement, ça vous intéresse et vous allez continuer à vous y intéresser, hein, puisque vous allez donc multiplier les projets de résidence de co-living, c'est ça, dans les 3 ans à venir, si je ne me trompe
oui,
pas.
Tout à fait. Au moins dans les 3 ans à venir, en
pour,
tout cas.
Pour l'instant, en tout cas, pour
ça.
Commencer.
Exactement.
Et alors pourquoi ?
Alors, en fait, on avait identifié chez ICA de promotion, bien avant la crise Covid, ce nouveau besoin qui avait peut-être pris l'émergence chez les jeunes, encore que... On verra après, mais les jeunes ne sont pas les seuls publics cibles. Mais effectivement, on avait vu qu'il y avait un besoin de plus de flexibilité par rapport à la location classique. Et il y avait une recherche du logement à haute service, à haute valeur ajoutée en termes de service. Voilà.
C'est clé en main, en fait.
Clé en main. Et puis, une volonté aussi, peut-être, de rompre la solitude, de vivre en communauté, etc. On a vu le parallèle dans le marché du travail, hein, avec le coworking. Donc, effectivement, c'était une demande qui était très forte. On s'en est rendu compte et on a décidé de le satisfaire. Et par ailleurs, ce qui était très important pour nous. Donc, ICAD promeut le logement pour tous. Et c'est vrai que cette flexibilité des baux permet de fluidifier l'accès au logement. Et ça répond à une tas de problématiques très diverses qui peuvent être liées autant à la vie personnelle qu'à la vie professionnelle. En fait, il y a une étude qui est parue qui parlait de phase transitoire. C'est vrai quand on est entrepreneur, qu'on veut fonder son entreprise, qu'on est en mutation professionnelle, ou bien même en séparation. En tout cas, on peut être intéressé par cet accès plus facile pour arriver dans une ville nouvelle. Voilà. Et puis, il y a un autre chiffre qui est assez effarant, puisqu'en fait, dans les grandes agglomérations, 40% des gens vivent seul. Et là aussi, hein, le co-living semble tout à fait pouvoir répondre à cette problématique.
Oui, ça s'est accentué pendant les confinements, hein, d'ailleurs, hein, puisque beaucoup
tout
de personnes se sont retrouvées seules chez soi et cette envie d'être ensemble s'est confirmée. Vous parliez des baux tout à l'heure. On n'a pas fait un point sur la durée possible des baux en co-living.
Alors, c'est très, très flexible. Je crois que la moyenne, que ce que nous font remonter les exploitants aujourd'hui, hein, c'est de 1 à 10 mois. Voilà. Ouais. A priori, ça peut être même un peu plus long si cela était nécessaire. Voilà, donc il n'y a pas de... Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que ça peut être que pour quelques mois, le temps de trouver un autre bien à l'achat, parfois le temps d'une mission professionnelle, ou le temps de se remettre en couple. Voilà.
Oui, on parle beaucoup des travailleurs nomades maintenant, encore plus depuis les confinements, justement.
Tout à fait. Et c'est vrai que ça répond tout à fait à cette problématique de public cible, de digital nomade. Voilà, et d'ailleurs, on l'étudie par plusieurs biais, hein, puisqu'on pousse des sujets actuellement en développement neuf dans nos grandes métropoles, mais aussi, et c'est important de le dire, par le biais de notre filiale Afterwork, qui travaille sur des bureaux obsolètes, des actifs obsolètes à reconfigurer en logement, et on est toujours du coup dans des bassins d'emploi, ça aussi c'est important, et donc Afterwork pousse plusieurs sujets à ce jour sur le co-living.
Donc ça, alors justement, les territoires que vous étudiez, ce sont
les métropoles, toutes les métropoles au sein desquelles nous sommes implantés. Donc au niveau national, on s'implante de plusieurs manières. Donc soit au sein de concours de grands projets d'aménagement que nous avons gagnés. C'est le cas notamment au Havre ou à Brest. Pareil aussi à Toulon, on a gagné un gros sujet de 59 000 m², les promenades de la Rade.
Oui.
Pour lequel, en particulier, il y a une résidence co-living. Urbain des Bois aussi, notre filiale de construction bois, a gagné un projet avec un espace co-working et co-living à Saint-Étienne. Et puis, aujourd'hui, on est à l'étude sur plusieurs sujets qui, j'espère, verront le jour. En tout cas, dans toutes les métropoles, comme vous le voyez, je vous ai cité Havre, ouais. Brest, Saint-Étienne. Il n'y a pas que Paris. Voilà.
C'est un peu éparpillé, en fait, sur tout le territoire français.
Exactement.
Au final.
En fait, ce qui est important, c'est la proximité à un bassin d'emploi. Et après, en réalité, le co-living, il y a un socle commun que vous évoquiez tout à l'heure, mais il y a aussi plusieurs réalités différentes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a la proximité au bassin d'emploi, puisqu'effectivement, on est plutôt sur un public d'actifs. Ouais. Voilà.
Mais pas que, on va en parler tout à l'heure, mais pas que. Alors, comment justement ce concept du co-living évolue? Alors, on parlait de choses à faire ensemble. Bon, il y a les habitations, hein, c'est des habitations donc propres à chacun.
Oui.
Mais après, il y a des événements, des choses à faire ensemble,
oui,
c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense co-living, et notamment parce que c'est un anglicisme, on va en faire un autre, on pense surtout à la génération des millennials. Et c'est vrai que c'était au départ peut-être le premier public cible parce qu'ils avaient cette envie de trouver une solution plus simple, moins administrative que la location classique, peut-être dirait-on avec un peu de cynisme, moins d'envie de s'engager, mais je pense que ça n'est pas que ça. C'est vrai que le co-living en tout cas séduit, comme on le disait tout à l'heure, des actifs à haut pouvoir d'achat. Mais la moyenne d'âge, et j'ai questionné deux gestionnaires à ce sujet, elle est de 37 et 38 ans. Donc on n'est pas sur la génération des milléniaux en réalité, puisque la tranche d'âge va de 21 à 60 ans. Et en poussant cette thématique, on arrive à d'autres types encore de co-living qui voient le jour. Il y a deux modèles qui sont en train d'être poussés. Il y en a un que nous, on pousse particulièrement parce qu'on y croit très fort, c'est Domani, qu'on a identifié dans le cadre de notre start-up studio. Qui d'ailleurs, j'en profite, vient de lancer pour la quatrième année consécutive un appel à projet entrepreneur. Et qu'est-ce que la start-up Domani ? Elle a pour objectif de démocratiser l'habitat partagé pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Donc en fait, on est sur une brique avant la résidence senior. On est sur un public beaucoup plus actif qui cherche à, je dirais peut-être encore, s'amuser, etc. et qui a besoin de cette convivialité qui est apportée par les services du co-living. Donc on est vraiment sur rompre l'isolement. On a des habitats partagés avec des colocations de 8 à 10 personnes et ça permet de préserver à la fois l'intimité tout en favorisant le bien-être commun.
Donc il s'agit d'un sous-segment du co-living.
Entre autres, voilà. Donc ça, c'est un des sous-segments qui existent. Il y a d'autres modèles encore qui sont encore poussés, mais ce qui est intéressant aussi, il y a un bailleur social I3F qui est en train de réfléchir à pousser un modèle en co-living social.
D'accord.
Et là aussi, cela peut être intéressant parce que ça permettrait peut-être aussi d'envisager des projets à moyen terme mixtes en répondant au code part sociale sur les communes carencées notamment. Voilà, donc en fait, on voit qu'il y a encore plein de modèles à pousser et puis peut-être des modèles plus familles, etc. Et
donc voilà. On irait plutôt sur, sur du co-living ciblé, plus que généraliste.
Alors si, il y a des... En fait, il y a beaucoup d'exploitants aujourd'hui qui sont en train de faire émerger leurs modèles. Et d'ailleurs, ils ont leur identité propre à chaque fois.
Oui, c'est vrai qu'on voit différentes sortes de co-living hein, en fonction des exploitants.
C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, différentes tailles aussi de co-living. On a le micro co-living avec une maison, 8 à 10 appartements. Et puis, on a les plus grosses structures, mais qui du coup bénéficient de plus de services, plus d'espaces partagés, éventuellement ouverts sur la commune ou pas. Et donc, il y a des exploitants, en fait, qui ne ferment pas la porte à un public cible ou quoi. Voilà. Mais certains ont décidé de donner une carte d'identité, en fait, qui peut être rassurante, par exemple, pour les seniors. Voilà.
Et puis des espaces partagés qui varient aussi en fonction des exploitants. Il y a des potagers quand on est un peu à la campagne, des voitures électriques même, j'ai vu.
Alors
qui sont
les voitures électriques et les vélos partagés, c'est assez courant effectivement, puisqu'en fait l'idée est d'apporter du service encore une fois à une location classique. Et effectivement, s'éviter éventuellement de s'acheter une voiture ou même un vélo électrique pour quelques trajets, ça a du sens, autant le partager. Et c'est vrai qu'il y a aussi une vision éco-responsable derrière tout cela.
Bien sûr.
Puisque l'idée est de partager des services et donc d'avoir une consommation un peu plus décroissante, etc.
Vous parliez des communes tout à l'heure. Les collectivités territoriales sont-elles favorables justement à ces projets de résidence, de co-living ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'elles ont tout à y gagner à s'y intéresser. Parce que, on l'a dit, elles peuvent renforcer l'attractivité de leur territoire. Et puis, ça répond à un vrai besoin. Il y a un chiffre que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui me paraît quand même assez fort. Non seulement les taux d'occupation sont très élevés, mais en plus, il y a une demande sans cesse renouvelée, puisque Babel Community me disait par exemple que pour leur résidence à Marseille, leur première, ils ont une liste de 4000 personnes pour une seule adresse. Donc c'est quand même énorme. Donc là, on répond à un vrai besoin. Et ça, il faut que les collectivités l'entendent. Maintenant, on s'est rendu compte effectivement que le co-living était un peu galvaudé, que parfois, il y avait beaucoup de pédagogie nécessaire autour de ce segment qui peut paraître du coup une tendance de mode un peu éphémère aux collectivités. C'est vrai que parfois, nous, on préfère leur parler de logement serviciel et on explique quels sont les services qui sont proposés dans le cadre de ce co-living. Et puis, ce que je tiens à dire aussi, c'est que comme on le soulignait, il y a tellement d'exploitants qui ont tellement de modèles différents qu'après nous, c'est à nous, c'est notre métier de trouver le bon modèle qui convient à la collectivité territoriale. Et là, il y a un vrai dialogue à mettre en œuvre, il y a de la pédagogie et en tout cas de notre expérience, il suffit d'en faire visiter pour remporter l'adhésion des collectivités. Voilà.
Ah
donc
oui.
Vraiment, c'est plutôt... Il y a eu un effet de mode. Ils ont été fatigués tous d'entendre co-living, co-living, co-living.
Mais ça peut être néfaste, justement.
Ça a pu être néfaste à un moment donné. Donc, en fait, on va arriver en premier abord avec plutôt logement à haute valeur ajoutée en termes de services. Ce sont des gens qui habiteront, qui seront heureux, qui peuvent avoir des services, qui peuvent renforcer sur la commune des équipements manquants. Parce que une salle de sport, un restaurant ouvert, une salle de coworking, ça peut être très intéressant si la commune le souhaite, parce qu'on peut être aussi sur une échelle beaucoup plus intime et beaucoup plus renfermée, je dirais, sur son usage. Et donc, voilà, il nous semble que le co-living, ça, il y a un socle commun, encore une fois, puis il y a beaucoup de réalités différentes.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il y a un vrai dialogue à avoir avec les collectivités locales pour trouver le bon modèle au bon endroit qui permettra de satisfaire tout le monde.
Voilà. En tout cas, baisser sa consommation et donc son empreinte carbone, ça
oui.
pourra intéresser, à mon avis, beaucoup de communes.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Julie Membrib. On va passer à vous maintenant, Joseph-Marie Absil. Alors déjà, vous allez nous présenter Audacia, dont vous êtes le directeur associé.
Oui, Audacia, c'est la maison entrepreneuriale du private equity. Et donc, nous avons trois pôles. Un premier qui investit dans des PME rentables. Un deuxième pôle qui est du venture capital. Derrière cet anglicisme, il y a plusieurs équipes. Une qui investit dans des startups du domaine quantique, une autre dans des startups du domaine spatial et puis une dernière dans des startups plutôt du domaine des énergies nouvelles, etc. Et puis un dernier pôle qui est le pôle immobilier que je dirige et qui s'est spécialisé dans l'investissement dans des résidences de co-living, dans des murs de résidences de co-living.
D'accord. Et alors, pourquoi cette spécialisation ?
Pourquoi cette spécialisation ? Eh bien, parce que lorsque moi je suis arrivé chez Audacia, on a un fondateur qui a la particularité qui a une forte ADN pour dénicher des nouveaux concepts ou pour aller débroussailler des nouvelles choses ou des choses existantes à rajeunir, etc. Et donc, lorsque on a créé ce pôle immobilier, eh bien l'objectif était de trouver un produit un peu nouveau et surtout de répondre à une demande. Et donc, c'est comme ça qu'on a regardé différents sujets. Et on est tombé sur ce sujet vraiment résidentiel en se disant que le co-living pouvait être une solution au problème de logement évoqué tout à l'heure par Julie.
Donc, vous voyez ça vraiment véritablement comme une solution. Justement, on sait qu'il y a un gros manque de logements en France. Vous avez récemment acquis une résidence à Reims, une résidence de co-living pour 20 millions d'euros. Pourquoi cette acquisition ? Pourquoi à Reims ?
Alors, parce que, comme le disait Julie, effectivement, le co-living n'est pas réservé à une caste de personnes et ce n'est pas réservé aussi à la région parisienne. Alors, si on a commencé par investir à Paris en achetant une résidence de co-living à Vanves, d'ailleurs, on l'inaugure le 30 juin. Eh bien, en fait, notre objectif, c'est d'investir dans toutes les grandes villes françaises, en tout cas en priorité, parce qu'après, il y a 7 millions de personnes qui vivent dans la solitude. Et il y en a, de mémoire, 35%, je crois, qui ont entre 16 et 45 ans, un truc comme ça. Donc, en fait, il y a une demande qui est énorme. Alors, on ne sortira pas tous les gens de leur solitude, parce qu'ils ne le veulent pas tous, d'abord.
Oui, il y en a qui sont bien dans leur solitude.
Exactement, exactement. Mais en revanche, on compte planter notre drapeau en priorité dans les grandes villes. Et donc Reims, c'était une très belle opportunité. C'est une résidence qui sera en plein centre de Reims, dans un quartier très, très actif, avec à la fois... c'est vraiment des quartiers qu'on aime bien, dans lesquels il y a évidemment ce sujet résidentiel, mais il y a aussi un pôle tertiaire. C'est à côté de la gare, c'est à côté du centre historique de Reims.
Oui, c'est magnifique d'ailleurs.
C'est magnifique, ouais.
Du coup, donc, vous croyez en l'actif de... Enfin, en cette classe d'actifs, hein, en l'avenir bien de sûr, cette classe d'actifs. Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite ?
Alors, je peux être très original après ce que vient de dire Julie, mais je partage à 100% son point de vue, donc je suis content parce que du coup on va pouvoir acheter plein de programmes d'ICAD.
Ben voilà.
C'est nickel. Donc c'est très bien qu'on se voit. Non, nous on croit aussi beaucoup à ce co-living qui est destiné peut-être en majeure partie pour des actifs. Quel que soit leur âge, effectivement, parce que c'est valable à la fois pour le jeune actif qui a envie de s'installer dans une ville, mais qui ne sait pas encore où est-ce qu'il a envie de s'installer durablement. Mais ça correspond aussi pour une personne qui habiterait en région parisienne, mais qui travaillerait à Toulouse une partie de la semaine. Et puis, ça correspond aussi à une personne qui, pour une raison X ou Y dans sa vie, a besoin d'un logement. Et toutes ces personnes vont avoir en commun un certain nombre de choses. La première, c'est qu'elles cherchent un logement avec service, avec pas nécessairement une salle de sport, mais en tout cas un endroit où ils vont pouvoir rencontrer du monde et puis pas s'ennuyer à aller chercher le contrat d'assurance, le contrat d'internet, etc.
Donc, nous, oui, c'est vrai que tout est compris. Hein, dedans. Il y a même Netflix dans certaines résidences co-living.
Alors le but, c'est quand même pas que les gens restent dans leur chambre avec regarder
Netflix.
Non, mais
on peut regarder Netflix à plusieurs. Hein,
exactement. C'est pour ça que dans certaines résidences, ça dépend des opérateurs, mais certains opérateurs comme Cherise ont dans leur concept un certain nombre dans leur cahier des charges, ils ont un certain nombre de must-have et la salle de cinéma fait partie de ces choses qu'il faut absolument avoir.
C'est vrai que ça plaît beaucoup. Quels sont donc les territoires que vous étudiez pour de prochains projets justement ?
Alors on a regardé en fait un peu toutes les grandes villes. Donc du coup après Reims, on regarde Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, et puis on regarde aussi depuis peu le Benelux, l'Espagne et puis le Portugal. On regarde notamment des résidences là à Luxembourg, qui est vraiment un endroit où il y a aussi une pénurie de logements. Il y a beaucoup d'actifs qui viennent un certain nombre de jours dans la semaine.
Il y a beaucoup de frontaliers, en fait.
Exactement. Alors, il y a beaucoup de frontaliers qui se retrouvent à voir 1h30 le matin, 1h30 le soir dans leur voiture,
compliqué.
Ou à galérer dans les trains. Et donc là, l'idée, c'est de leur permettre d'être au pied de leur bureau.
Ah oui, c'est vrai que c'est
tout en étant dans un endroit sympathique et où on ne va pas juste se contenter de faire de dormir et puis d'aller travailler. Et puis voilà, enfin, voyez, d'avoir une vraie vie où on va pouvoir partager des choses, comme le disait tout à l'heure Julie. C'est vraiment un des défis du co-living et c'est ce qui différencie vraiment les opérateurs entre eux. Ça commence à se décanter un peu, on commence à y voir un peu plus clair. C'est pas encore évident, mais on commence à y voir un peu plus clair. Et nous, c'est pour ça qu'on se positionne vraiment sur comme un investisseur spécialisé dans le co-living, parce que c'est difficile pour les gros investisseurs de s'y retrouver, parce qu'ils voient tout un tas de sous-jacents. Et dans le co-living, dans le sous-jacent co-living, ils voient tout un tas d'opérateurs. Et nous, on a vraiment la conviction qu'au-delà d'offrir un service immobilier qui a un toit sur la tête, un lit et puis une douche et un WC, on veut vraiment que les opérateurs offrent vraiment animent leur résidence pour apporter quelque chose de plus, pour faire vivre une expérience aux personnes qui vont louer une chambre pour entre un mois effectivement et 12 mois et puis après on peut aller encore au-delà.
Il y a vraiment le côté humain en fait qui doit ressortir selon
vous. C'est vraiment important et c'est vraiment ce que je me répète, mais ce qui différencie les opérateurs aujourd'hui, parce que sinon on n'a pas besoin de venir dans une résidence de co-living pour avoir un toit sur la tête, on peut louer un studio juste à côté.
Et c'est vrai que quand vous parliez là du Luxembourg, j'ai entendu des personnes qui étaient même déprimées d'aller à l'hôtel 4 jours par semaine et c'est vrai que de se retrouver ensemble, il y a des activités à faire ensemble dans certains co-living, il y a des cours de cuisine, il y a plein de choses à imaginer et à faire et c'est vrai que ça rend ça beaucoup plus fort et c'est vraiment une expérience à vivre.
Mais l'expérience, vous avez raison, parce que l'expérience en fait on a apporté de l'expérience, moi je viens de chez Unibail, alors on a voulu apporter de l'expérience dans les commerces. On a apporté de l'expérience dans le bureau. Julie parlait tout à l'heure du coworking. On a apporté quelque chose de nouveau. Alors, tout ne va pas être du coworking demain. Même dans les bureaux classiques, on renouvelle l'expérience de l'usage du bureau. Dans la logistique, c'est un peu plus technique, mais en tout cas, on a renouvelé aussi tout ça. Et dans le logement, il ne s'était pas passé grand-chose depuis quelques années, voire même depuis des décennies. Et donc, on a apporté quelque chose de nouveau. Le co-living, il n'y en a rien de nouveau dans la mesure où le fait d'habiter à plusieurs sous le même toit, c'est vieux comme le monde. Mais en revanche, cette dimension d'offre clé en main, avec en plus une offre d'animation, etc., ça, c'est nouveau, ça.
Oui, ça, c'est nouveau. Alors justement, concernant vos investissements à court, moyen et long terme, quels seront-ils au sujet du co-living ?
Alors, on regarde donc un ou deux actifs à Paris et puis en région parisienne, enfin un peu plus que ça, parce que pour arriver à en acheter, il faut regarder plusieurs. et puis surtout pour que ça sorte quand même rapidement. C'est-à-dire que la difficulté de tous ces opérateurs, c'est que, et notamment pour les résidents, Julie le disait tout à l'heure aussi, j'ai bien écouté. Eh bien, en fait, jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui ont fait des petits, enfin on dit des petits, mais des résidences qui ne sont pas immenses. Voyons, Vanves, là, qui est une résidence d'un peu plus de 1 500 m², qui ouvrira donc fin juin, eh bien, c'est une des premières résidences, voire la première en région parisienne, de cette taille-là. Et donc l'objectif, c'est de multiplier justement les actifs dans les grandes villes françaises, avec cette thématique aussi du co-living, mais déployée sur plusieurs choses, à la fois le co-living senior, qui peut correspondre à des seniors en perte d'autonomie ou des seniors encore très autonomes, Et puis aussi pour les personnes handicapées, pour les seniors autonomes, je pense que la plupart des gens qui vont nous regarder vont se dire il est un peu fou. Quand on est senior, on n'a pas spécialement envie de vivre en colocation. Mais en fait, on me disait la même chose il y a 4 ans quand on a commencé à investir dans le co-living. Et moi, je crois beaucoup à ces seniors qui, arrivés à une étape de leur vie, vont vouloir se délester de la difficulté ou le poids que représente l'entretien d'une maison, d'un appartement, etc. Le poids aussi de la solitude.
Bien sûr.
Et qui vont vouloir dépenser leur argent autrement et vivre autrement et qui vont venir dans des résidences de co-living. Alors, ce ne sera pas forcément des trucs, et moi, je ne pense même pas que ce seront des actifs immobiliers de 3000, 4000 mètres carrés, mais peut-être plutôt des résidences de co-living de 500 mètres carrés où ils seront peut-être une vingtaine ou une quinzaine. On verra bien, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un opérateur comme les Pénates qui a ouvert là récemment un actif dans le sud, j'ai plus en tête le nom de la ville, et en fait qui se fait fort d'acheter des résidences, des maisons des belles maisons dans des villes de Paris ou de province, peu importe, et en mettant 15-16 personnes retraitées, mais encore très actives et qui sont ravies de trouver une nouvelle offre résidentielle.
Et juste petite précision, donc il y a des logements partagés et des logements propres à chacun dans chaque résidence co-living. On a le choix.
Oui.
Ouais.
Merci beaucoup à vous. Hein. Merci Julie Membrib et merci Joseph-Marie Absil pour vos témoignages et pour ces interviews.
Merci.
Merci Audrey Jourdain.
Merci Bérénice. Merci à nos invités.
Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Mag au Carré.
Le Mag au Carré en partenariat avec la lettre Mètre Carré.